de ce journal, Iran-Chine, des relations de plus en plus larges. Sanctions américaines oppressives, la suspension du droit de vote de l'Iran aux Nations Unies. Et puis une base militaire américaine a été attaquée par une roquette dans la province orientale de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et son homologue chinois Wang Yi, lors d'une réunion vendredi, ont souligné la nécessité d'élargir la coopération mutuelle dans différents domaines. Le très haut diplomate iranien a déclaré que l'accord de coopération stratégique entre Téhéran et Pékin repose sur une approche gagnant-gagnant conforme aux intérêts des deux pays. Hossein Amir Abdollahian affirme que les relations entre l'Iran et la Chine se développent également dans tous les domaines. Il a fait ses commentaires après une rencontre avec son homologue chinois dans la ville de Wuxi vendredi. Amir Abdollahian a salué le rôle de la Chine dans les pourparlers en cours à Vienne pour la relance de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, connu sous le nom du Plan global d'action conjoint PGAC. Il a déclaré que Pékin avait joué un rôle constructif en soutenant les droits nucléaires pacifiques de l'Iran et ses appels à la levée des sanctions de Washington contre Téhéran. L'Iran et la Chine ont signé l'année dernière un accord de coopération historique de 25 ans. L'accord vise à renforcer les liens économiques et politiques entre les deux pays. Sanctions américaines oppressives, la suspension du droit de vote de l'Iran aux Nations Unies. Les sanctions américaines unilatérales et oppressives contre l'Iran ont non seulement violé les droits de l'homme et ciblé la santé et la vie du peuple iranien, mais ont également conduit à la suspension du droit de vote de l'Iran à l'ONU. Au cours des deux dernières décennies, le nombre de sanctions américaines contre des gouvernements, des entreprises, des responsables d'autres pays a décuplé. L'ancien président américain Donald Trump a imposé le plus de sanctions aux autres pays. Donald Trump, avec le retrait unilatéral et illégal de l'accord sur le nucléaire iranien PGAC le 8 mai 2018, a rétabli ses sanctions secondaires contre l'Iran en deux temps. Les Nations Unies ont suspendu le droit de vote de l'Iran pour la deuxième fois cette année en raison du non-paiement des cotisations contre lequel la République islamique se bat en raison des sanctions américaines illégales sur les transferts de devises. Le ministère iranien des Affaires étrangères dénonce fermement la suspension du droit de vote de l'Iran aux Nations Unies, soulignant que les sanctions cruelles des États-Unis ont provoqué la situation. Selon l'article 19 de la Charte des Nations Unies, un pays membre perd son droit de vote à l'Assemblée générale de l'ONU si le montant de ses arriérés atteint la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. Toutefois, l'Assemblée peut autoriser ce membre à participer au vote si elle constate que ce manquement de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté du dit membre. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, déplorant la suspension du droit de vote de la République islamique d'Iran aux Nations Unies, a déclaré « Malheureusement, pour la deuxième année consécutive et en raison des sanctions américaines oppressives et illégales, notre pays a des difficultés pour le paiement des cotisations à l'ONU liées aux frais d'adhésion à l'organisation. » L'administration Trump a mis en œuvre une politique de pression maximale et a imposé des sanctions cruelles et inhumaines contre le peuple iranien, mais cette pression maximale a finalement échoué. La République islamique d'Iran n'a pas cédé à ces pressions avec autorité. L'Iran réitère son soutien à l'intégrité territoriale en Syrie. Ali Asrar Khoji, haut-adjoint du ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, a déclaré samedi que l'Iran soutient les efforts des Nations Unies pour renforcer la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale en Syrie. Khoji a fait ses remarques lors d'une réunion à Téhéran avec l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Ger Pedersen. Ce haut diplomate iranien a exprimé le soutien de l'Iran au pourparlers intra-syriens et à l'établissement de la paix et de la stabilité dans ce pays frère et ami. Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des derniers développements de la crise syrienne, ainsi que des discussions en commission sur la loi constitutionnelle du pays, la lutte contre les sanctions et l'envoi d'aide humanitaire au peuple syrien. L'envoyé de l'ONU, pour sa part, a apprécié les efforts de l'Iran dans la coopération avec les Nations Unies et dans les pourparlers d'Astana, ainsi que pour aider à rétablir la paix et la sécurité en Syrie. Une base militaire américaine a été attaquée par une roquette dans la province orientale de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. Des sources locales affirment que plusieurs roquettes ont été tirées sur le champ pétrolifère d'Al-Omar pendant la nuit. Le terrain abrite l'une des bases militaires américaines en Syrie. Rien n'a filtré dans l'immédiat sur d'éventuelles victimes. L'attaque aurait provoqué des incendies qui ont été maîtrisés par les troupes américaines stationnées sur le sol syrien. Les forces américaines ont ensuite riposté, ouvrant le feu vers l'endroit d'où les roquettes avaient été lancées. Les drones américains ont également commencé à survoler le champ pétrolifère après la frappe. Damas considère les forces américaines présentes en Syrie comme des occupants et insiste sur le retrait immédiat de ces forces des territoires syriens. Le sentiment anti-américain s'est accru en Syrie et dans d'autres pays de la région suite aux interventions militaires et politiques meurtrières des États-Unis dans la région. Ces attaques sont majoritairement revendiquées par des groupes proches de la résistance. Le ministère palestinien des Affaires étrangères fustige le silence complice de la communauté internationale face aux atrocités israéliennes. Dans une déclaration, le ministère affirme que le mutisme observé par la communauté internationale sur les activités de colonisation israélienne et le processus de judaïsation dans la ville sainte d'Al-Rots est un mépris total pour la solution à deux États. Il indique que les projets de colonisation sont essentiellement et systématiquement concentrés dans et autour de la ville d'Al-Rots Est. Une politique qui conduiront à terme à l'isolement des quartiers palestiniens dans la région. Pendant ce temps, les forces israéliennes ont arrêté plus de 100 Palestiniens lors des rassemblements anti-occupation dans la région de Negev. Les manifestations anti-israéliennes, reprises dans le Negev il y a 4 jours, ont été de nouveau réprimées par l'armée israélienne. Le silence de la communauté internationale a encouragé Israël dans ses crimes et dans son terrorisme d'État. Israël fait preuve d'un mépris total pour la vie d'innocents, déplore les activistes des droits de l'homme, qui ne cessent d'appeler la communauté internationale à mettre fin à l'agression et à l'occupation. Pour eux, c'est la seule manière dont la paix et la sécurité pourront être établies dans la région. Au Liban, les mouvements de la résistance libanaise Hezbollah et Damal acceptent d'assister aux sessions du cabinet après un boycott de 3 mois au milieu de l'aggravation de la crise économique dans le pays. Dans une déclaration commune, ils ont souligné que la seule solution à la crise actuelle est d'avoir un gouvernement fort qui peut gagner la confiance de tous. Ils ont noté que le Liban est confronté à une crise économique et financière sans précédent, dont la principale manifestation est la dévaluation de la monnaie nationale et la forte baisse dans la fourniture des services de base aux citoyens. Les 10 mouvements ont refusé d'assister aux sessions du cabinet suite à leurs différends autour de l'enquête sur l'explosion meurtrière du 4 août 2020 au port de Beyrouth. Le Hezbollah et Amal ont également critiqué les actions illégales de l'enquêteur en chef dans l'affaire et ses violations de la loi, ses politisations et son manque de justice. Dans un communiqué conjoint, les partis dirigés par Hassan Nasrallah et Nabi Berri ont fait part samedi soir de leur volonté de revenir à la table du Conseil des ministres, refusant d'être injustement accusés de blocage. Ils ont toutefois conditionné la participation de leurs ministres aux réunions uniquement consacrées à l'approbation du projet de budget de l'État et aux discussions du plan de redressement économique. Enfin, les perspectives de réconciliation entre les États-Unis et la Russie au sujet de l'Ukraine restent sombres. Après les pourparlers bilatéraux à Genève, les États-Unis menacent maintenant la Russie de réponses rapides si elle envahit l'Ukraine. Selon le secrétaire d'État adjoint américain, la porte d'une solution diplomatique est ouverte du côté de Washington, mais la Maison-Blanche prépare des réponses à tout type d'action que la Russie pourrait entreprendre. Je n'ai pas l'intention de spéculer sur 18 scénarios différents. Je dirais simplement que notre décision et les négociations que nous menons avec nos partenaires portent sur la possibilité de faire de très gros dégâts de manière très rapide si la Russie, d'une manière ou d'une autre, franchit ce pas, a-t-elle souligné. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Le 16 janvier, l'anniversaire de la fuite historique du Shah déchu d'Iran. Le 16 janvier, soit le 26 Day du calendrier iranien, c'est l'anniversaire de la fuite historique du Shah déchu d'Iran, une fuite qui assura la chute du régime du Shah et a mené à la victoire de la révolution islamique en Iran en moins d'un mois. Après avoir quitté le pays le 16 janvier 1979, Mohammad Reza Pahlavi s'est rendu en Égypte et fut officiellement accueilli par le président égyptien Anwar al-Sadat à Aswan. Ensuite, dès le 22 janvier, il passa un certain temps au Maroc comme invité du roi Hassan II, jusqu'à ce que les pressions du gouvernement révolutionnaire iranien et certaines considérations politiques du gouvernement marocain ne l'obligent à quitter le Maroc. Ainsi, le 30 mars 1979, il se dirigea vers le Bahamas avec un visa touristique. Après l'échec de ses efforts pour obtenir l'asile politique en Angleterre, il fut obligé de quitter les Bahamas le 10 juin et de se diriger vers le Mexique. Avec l'aggravation de sa maladie le 22 octobre, il s'est rendu aux États-Unis et il fut hospitalisé à New York pour un traitement médical. Après avoir quitté l'hôpital et avec l'apogée de la crise des otages de l'ambassade américaine à Téhéran, Mohammad Reza Pahlavi a quitté les États-Unis et s'est rendu en Égypte. Peu de temps après son arrivée en Égypte, sa maladie s'est aggravée et les médecins ont sorti sa rate. Il mourut finalement au Caire le 27 juillet 1980, à l'âge de 61 ans, et son corps a été enterré dans la mosquée Al-Rifa'i à la suite d'une cérémonie officielle. Concomitamment à cette fuite d'importance historique, une immense célébration durant laquelle le peuple distribua des friandises s'étendit à travers les rues de tout le pays. Et ce jour du 26 dé 1357, soit le 16 janvier 1979, fut dès lors considéré comme point capital dans l'histoire de la révolution islamique d'Iran.